Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous sommes dans le temps de l'Épiphanie, le temps en vert, ornement vert, c'est-à-dire la vie de l'Église et donc notre vie sur la terre. Nous avons eu Noël, notre Seigneur vient, et puis, il nous lance dans la vie. Après ça, nous allons nous préparer à Pâques. Et puis, il y aura le temps après la Pentecôte, de nouveau en vert, qui va nous rappeler ce qu'est la vie chrétienne. Et ce dimanche, notre Seigneur, à la demande de la Très Sainte Vierge, lui dit « Mon temps n'est pas encore venu ». Il y a donc des temps. Et il faut respecter le temps, puisque notre Seigneur lui-même les respecte. On ne peut pas anticiper le temps. Vous allez me dire, notre Seigneur, finalement, va quand même faire le miracle. Mais il pose le principe. Et la providence divine a établi des temps pour nous faire avancer dans la foi et dans l'amour de Dieu. Et vous avez eu le grand temps de la préparation des Hébreux à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour nous, cela paraît sans difficulté maintenant que c'est passé. Mais ça a duré quand même, alors, de la chute. De la chute jusqu'à Noé, il y a eu 2000 ans, 3000 ans. De Noé jusqu'à Moïse, vous avez 500 ou 700 ans. Même plus que ça, d'Abraham jusqu'à Moïse. Et puis de Moïse jusqu'au Messie, vous avez 1300, 1500 ans. Et puis, à partir du Messie, alors ne soyons pas impatients. Parce que la vraie vie est au ciel, et ici-bas, nous portons notre croix avec notre Seigneur. Alors, la Sainte Vierge, comme toutes les mamans, est pressée pour le bien de ses enfants. Elle est préoccupée de toutes ces âmes qui se sauvent, qui ne se sauvent pas, qui doivent se sauver. Il y a tant et tant d'âmes qui se sauveront lorsqu'elles connaîtront notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, elle est pressée que notre Seigneur se manifeste. Et notre Seigneur lui répond, « Le temps n'est pas venu. » Finalement, notre Seigneur va faire le miracle. Mais ça, c'est une autre chose. Alors, appliquons cela à notre époque. Il y a des temps dans l'histoire de l'Église. Et bien sûr, nous sommes pressés de voir les âmes se sauver. Mais nous devons respecter la providence de Dieu. Et dans sa sagesse, la providence, après avoir suscité une chrétienté magnifique, a permis qu'il y eut un lent déclin. Et nous discutions il y a 8 jours chez des bons fidèles où j'ai dit la messe, et nous parlions du protestantisme et de la chrétienté, et je leur faisais remarquer où était passée l'Inquisition à l'époque du protestantisme? Terminé. On n'en entend plus parler. Elle qui avait mis sa gloire à défendre la foi est muette au moment d'une des crises majeures de l'histoire de l'Église. Et le bon Dieu a permis ce déclin. Il ne l'a évidemment pas voulu. Mais dans sa sagesse, il a prévu qu'on devrait se sanctifier dans ce déclin. Et la crise a avancé et nous sommes à une période où toutes les structures s'effondrent et où c'est la masse volumique de notre vie chrétienne qui va faire la différence. Les plus légers vont être à la surface, les plus lourds vont couler. Le critère se fera là-dessus. C'est fini de croire qu'une organisation, qu'on puisse encore suivre les yeux un peu fermés, une organisation. Chaque père de famille aujourd'hui est un évêque. Normalement, l'évêque envoie les prêtres au père de famille. Et aujourd'hui, le père de famille choisit les prêtres qu'il donne à sa famille. Et chacun pour soi, aujourd'hui, est un peu un évêque. Et il faut l'accepter que ce soit ainsi. Nous n'avons pas à faire la leçon à Dieu. Nous n'avons pas à croire qu'il se trompe. Nous avons fait l'erreur avec la fraternité Saint-Pédis de vouloir retarder le temps. Nous avons fait l'erreur avec la fraternité Saint-Pédis de vouloir rester dans le temps ancien qui nous rassurait. Et nous avançons. Pourquoi ? Parce qu'il y a le triomphe au bout. Le triomphe est la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, sachons respecter ce temps. Dans ce temps, que va-t-il se passer ? Deuxième partie du sermon. Dieu va changer l'eau en vin. Comment il s'appelle celui qui... Ah, ça me revient. Un type qui était en prison, là. Il était en prison, qui s'est converti. Il n'était pas criminel parce qu'il n'a jamais tué. Il n'a jamais versé le sang. Bon, il a fait des braquages. Et il avait rencontré un curé à Laval. Il s'était moqué d'un curé. Et puis le curé, très gentiment, lui avait répondu malgré la moquerie. Puis quand le curé a appris qu'il était en prison... Je dis le curé parce que ce brave homme l'appelle mon curé. Alors tous les mois, le curé lui écrivait. Et alors il lui envoie un évangile. Et alors il y avait l'évangile des noces de Cana. Et alors notre brave homme, le nom va me revenir, notre brave homme se dit « Ah, ça c'est intéressant les noces de Cana ». Dans sa cellule, il ouvre le robinet et puis il dit « Seigneur, si vraiment tu es le Christ comme mon curé l'a dit, alors fait qu'aujourd'hui j'ai du vin. » Et il n'a eu que de l'eau. Alors il a envoyé l'évangile à l'autre bout de la cellule, et il a crié à son curé, « Il n'y a que de la flotte dans ton évangile. On parle que de flotte. » Un jour, il en a eu assez, un soir, il en a eu assez, et il a dit à notre Seigneur, « Écoute, si c'est vraiment vrai tout ce que dit mon curé, et que tu es le Christ, alors, je te donne rendez-vous cette nuit à 2h du matin. » Alors, à 2h du matin, lumière dans la cellule, et quelqu'un qui l'appelle. Et notre brave bandit, qui vient me déranger? Parce que, on est prisonnier dans la prison, mais on est roi dans sa cellule. Qui vient me déranger? Enfin, tu as déjà oublié que tu m'as donné rendez-vous? Le lendemain matin, les gardiens n'en croyaient pas leurs yeux et leurs oreilles, parce que le type était un costaud. Hein. On l'avait mis dans une prison de très haute sécurité, dans laquelle ils étaient qu'une dizaine ou une vingtaine, et il avait cassé une table sur la tête du directeur de la prison. Quand il était arrivé, hein, tu cèdes ou tu casses. Et il a répondu, il a pris la table, il a dit je cède pas, il l'a cassé sur la tête du directeur de la prison. Et donc le loulou, évidemment, plus ça allait, plus les hommes étaient durs, plus évidemment c'était ça grimpait vers la haine et la dureté. Et alors là, il était réglementairement dans sa prison, le long du mur, à attendre les gardiens. Quel coup nous joue-t-il? Alors le brave homme dit, non, je ne joue pas un tour, le Christ est venu me voir et j'ai changé. Le bon Dieu change l'eau en vin. Il a bien changé l'eau en vin. Ce brave homme s'est vraiment converti. Des visiteurs de prison, je pense, lui ont parlé de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le chapelet, bien entendu. Il a fini par avoir une libération anticipée, une remise de peine, une libération anticipée. Et puis, il a fait le tour de tous les lycées de France pour raconter son histoire. Et sa dernière conférence était à Laval, et nous l'avons enregistrée. Et voilà, il a raconté son histoire. J'ai rencontré le Christ. Dieu change l'eau en vin. Mais pour cela, il faut apporter de l'eau. Notre Seigneur dit « Remplissez ces ivres d'eau ». Il aurait très bien pu mettre le vin comme ça. Et non. Dieu veut qu'il y ait une démarche de notre part. Il faut que nous apportions de l'eau. Toute flotte qu'elle soit, elle est nécessaire. Et lorsque nous apportons l'eau, Dieu la change en vin. Dans la crise actuelle, nous apportons notre bonne volonté, nous apportons notre foi, nous apportons notre désir d'aimer Dieu, et Dieu le changera en vin. Quel est ce vin? Le vin, c'est le triomphe de la gloire et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce vin, c'est la résurrection après la croix. Ce vin qui enivre, si Dieu a voulu que le vin enivre, c'est pour nous faire comprendre quelque chose. Nous serons enivrés au paradis, enivrés de Dieu. Et troisième partie du sermon, avec la Sainte Vierge. Elle a la foi, une foi extraordinaire. Elle a parfaitement compris tout. Elle commence par dire à son fils, ils n'ont plus de vin. Prière de simple exposition sur laquelle notre bon père Bariel insistait. Prière de simple exposition, dites à Dieu quel est votre état. Voilà où en est la situation, Seigneur. Il fera quelque chose, il est venu pour cela. C'est une prière très confiante. Et en même temps, une prière dans laquelle on ne dicte rien à Dieu. Mais c'est une vraie prière. Et aussitôt qu'elle a dit cela à notre Seigneur lui répond, alors femme, qu'il y a-t-il entre toi et moi, femme, ce qui était un compliment, le plus beau de tous les compliments, parce qu'il y avait eu Ève, maintenant il y a Marie. Ève était le modèle des femmes, un modèle qui n'a pas tenu longtemps, et Marie remplace, modèle de toutes les femmes. Qu'il y a-t-il entre toi et moi? Tu fais appel à ma divinité? Tu vois jusqu'où tu montes? Tu vois bien jusqu'où tu montes. Et ce n'est pas un reproche, bien entendu, c'est une constatation, et il le dit à haute voix pour que nous l'entendions. Et alors, à ce moment-là, Notre-Dame ne répond rien et dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et voilà, comme Ancilla, comme servante, Elle avait fait la volonté de son maître et elle transmet les mêmes consignes, faites tout ce qu'elle vous dit. Alors, notre Seigneur a pitié d'eux, il leur ordonne de mettre l'eau dans les hydres et puisez-en, il fait faire le travail par les autres. Encore une fois, il faut que nous puisions, il ne puise pas pour nous. Et portez-le à l'intendant. Là encore, c'est à nous de travailler. Et puis l'intendant constate effectivement le miracle. À ce moment-là, les disciples crurent en lui n'étaient pas encore ses disciples, puisque c'est le tout début. C'était commencer à le suivre. Avec ce miracle, ils se rendent compte qu'ils ont affaire au moins un envoyé de Dieu, au moins. Oui, notre Seigneur va révéler sa divinité après ça, progressivement. Alors, dans la crise actuelle, cet enseignement de l'Église, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que l'Église nous donne un enseignement dans ce temps des ornements verts. C'est-à-dire que ces évangiles sont pour nous. Et comme la manne, ils sont une nourriture qui s'adapte à toutes les situations. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin de forcer l'interprétation pour voir à quel point cet évangile est actuel. Et donc, l'Église nous donne par là tout d'abord une grande confiance, mais en même temps une grande humilité, une grande patience. Et elle nous donne la Très Sainte Vierge. C'est pour ça que la Très Sainte Vierge a encore une fois apparu au monde. Elle a beaucoup apparu les derniers temps. Plus la foi diminue, plus la Sainte Vierge intervient comme aux noces de Cana. Et la Sainte Vierge à Fatima, 1917, l'année a quelque chose de tout à fait symbolique. La Très Sainte Vierge à Fatima rappelle aux petits-enfants de Fatima toutes ces âmes qui se perdent. Et puis, elle donne le troisième secret qui est la crise dans l'Église avec la préservation de la foi. Et puis, elle donne les moyens. Un troisième secret qui a été caviardé par les ennemis de l'Église, il faut bien le dire, qui n'ont pas assez la foi. Et puis, elle donne les moyens, le chapelet, la consécration à elle-même, la dévotion à son cœur immaculé, les 5 premiers samedis du mois. Et alors, ce sont des moyens qui sont aussi disponibles que l'eau, aussi faciles à avoir que l'eau. Il n'y a pas loin à les chercher. Elle n'a pas donné la messe, quoiqu'elle ne diminue pas la valeur de la messe, mais la messe ne sera pas aussi accessible que l'eau et que le chapelet, qui dans un fond de cellule en prison, qui dans un fond de ville où il n'y a pas de prêtre ou pas de messe, le chapelet est toujours accessible. Et le chapelet est une union à la messe. Une manière d'assister à la messe, à travers le temps, à travers l'espace. Elle donne ces moyens qui sont aussi accessibles que l'eau. Elle nous promet, elle sait que son Fils tiendra ses promesses et qu'il les changera en vain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.